Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur Morpholio Trace, cette application de dessin numérique, et plus spécifiquement, son utilisation en architecture. On va s'appuyer sur une démonstration vidéo assez précise qui la montre en action pour la conception d'une salle de bain dans le cadre d'une rénovation, je crois.
C'est ça, une maison des années 30. Et au-delà de l'outil lui-même, cette vidéo pose une question assez fondamentale, n'est-ce pas ? Est-ce que cette démo, elle nous convainc vraiment que Morpholio Trace apporte un vrai plus en termes d'efficacité, de praticité pour le travail de l'architecte, surtout si on compare aux méthodes classiques ou même à d'autres outils numériques qui existent déjà. C'est un peu le reflet d'un débat plus large, en fait.
Tout à fait. Alors, notre source, pour être précis, c'est une vidéo tutoriel qui s'appelle « How I use Morpholio Trace as an architect and designer drawing on the iPad tutorial » de la chaîne Sketch Design Craft. Et de mon côté, je dois dire que je pense que cette vidéo, même si elle est ciblée, elle illustre assez bien comment Morpholio Trace peut fluidifier certaines tâches clés du processus de conception, rendant le flux de travail, disons, plus efficace dans ce contexte.
Et moi, je vais plutôt proposer une vision, disons, un peu plus nuancée. Je reconnais bien sûr les fonctionnalités qui sont montrées, elles sont intéressantes. Mais la façon dont l'outil est utilisé dans la vidéo, les choix que fait l'utilisateur, ça révèle aussi, je trouve, des compromis, peut-être des limitations. Et ça m'amène à me demander si l'efficacité, la praticité, sont si universelles ou si significatives qu'on pourrait le penser au premier abord, surtout quand on pense à tout le processus de conception du début à la fin.
Très bien. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour soutenir mon idée d'efficacité, j'aimerais d'abord insister sur la gestion de l'échelle et la précision que l'application propose, comme on le voit dans la vidéo. C'est assez frappant. L'utilisateur, il commence, il calibre son espace de travail très simplement. Il trace une ligne, hop, un mur existant, il dit « ça fait 350 cm » et voilà, l'application ajuste l'échelle pour tout le reste. La règle virtuelle, les outils, tout est calibré instantanément. C'est quand même une sacrée différence avec la gymnastique mentale et les règles coach qu'on manipule constamment à la main.
D'accord.
Et après, on le voit ajouter des cotations précises avec les unités, les décimales, le style. L'outil a l'air de gérer ça, ces aspects fondamentaux du dessin technique, avec une facilité assez déconcertante. Ça libère du temps, de l'attention pour la conception pure. Et puis, il y a le système de calque. Présenté un peu comme des calques physiques qu'on superpose, ça permet d'organiser clairement les infos, les murs, le mobilier, les notes. C'est intuitif et, même pour un exemple simple, c'est puissant pour gérer la complexité.
Alors, oui, je vous l'accorde, la calibration numérique, de l'échelle, l'utilisation de calques sont des atouts, c'est sûr, par rapport au dessin purement manuel. C'est même, on pourrait dire, un des bénéfices de base du passage au numérique. Et Morpholio Trace, semble faire de manière assez accessible. Cela dit, il faut quand même remettre ça dans le contexte plus large des outils numériques pour l'archi. Gérer précisément l'échelle et les calques, c'est une fonction standard, presque élémentaire, de n'importe quel logiciel de DAO, de CAO, quoi.
Oui, bien sûr, mais la simplicité ici.
Justement, la démonstration montre que Morpholio Trace le fait, et le fait simplement pour une pièce rectangulaire. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur sa capacité à gérer des projets vraiment complexes, avec des géométries tordues, plusieurs niveaux, là où la gestion de l'échelle, des références, ça devient bien plus critique. Voyez ? Est-ce que cette facilité qu'on voit là, elle tient la route face à la complexité réelle d'un gros projet d'architecture ? La vidéo, elle ne nous permet pas de le dire. L'efficacité, elle est montrée pour le simple, mais quid du complexe, là où on cherche vraiment à gagner du temps.
C'est une question pertinente sur l'extrapolation, c'est vrai. Mais restons sur ce qui est montré. Prenez les pochoirs, par exemple. La vidéo illustre bien comment on peut insérer, vite fait, des éléments standards. Une toilette, là. Mais on imagine des portes, des fenêtres, des meubles, depuis une bibliothèque. Pour une esquisse rapide, pour tester des aménagements, pouvoir tamponner, comme ça, des éléments à l'échelle, c'est indéniablement un accélérateur. Combiné au calque, ça permet de tester des options très très vite.
Oui, l'idée du pochoir, sur le papier, c'est séduisant pour la rapidité, je suis d'accord. Sauf que, et c'est là que mon scepticisme sur l'efficacité réelle pointe le bout de son nez, l'utilisateur prend bien soin de dire, juste après avoir mis sa toilette, qu'il va la redessiner par-dessus, sur un autre calque, pour conserver cet effet dessiné à la main. Ce détail, il n'est pas anodin du tout. Ça suggère que l'esthétique brute du pochoir, ben, elle ne suffit pas ou elle n'est pas jugée adaptée pour le rendu qu'il veut à la fin. Alors, si utiliser un élément qui est censé faire gagner du temps vous oblige ensuite à une étape supplémentaire où vous redessinez quasiment tout à la main, où est le gainette au final ? Ça pose une question, je trouve, sur la qualité ou la flexibilité esthétique de ces pochoirs. Et plus largement, ça illustre parfaitement cette tension dont je parlais. L'outil propose une solution rapide, standardisée, mais l'architecte, lui, il sent le besoin de repasser derrière avec une intervention manuelle. Pour des raisons de style, de patte, peut-être aussi pour communiquer quelque chose de spécifique au client. Du coup, l'efficacité brute de l'outil, elle se heurte à une exigence esthétique ou de communication.
On pourrait aussi le voir comme une flexibilité, non ? L'outil fournit une base rapide et l'utilisateur choisit d'y ajouter sa touche. La fonction d'accélération est bien là. Après, son utilisation est modulée selon le projet ou la préférence de l'architecte. Prenez un autre exemple d'automatisation, l'outil Smart Fill. L'utilisateur le décrit comme incroyable pour remplir des zones, faire des hachures ou même calculer des surfaces rapidement, bon, à condition que les lignes soient bien fermées. Imaginez le temps gagné pour dessiner un carrelage, un parquet ou pour zoner un plan. Le potentiel d'efficacité sur ces tâches répétitives, il est quand même considérable.
Le potentiel, oui, je veux bien y croire. Mais encore une fois, c'est la démonstration elle-même qui vient nuancer ce potentiel. L'utilisateur, après avoir vanté les mérites de SmartFill, choisit délibérément de ne pas l'utiliser pour dessiner les carreaux au sol de la salle de bain. Et pourquoi ? Je le cite encore. « Pour garder le même style que le reste du dessin, qui est fait à la main. » C'est un choix conscient de privilégier une cohérence esthétique, une apparence dessinée, au détriment de l'outil d'automatisation qui aurait sans doute été plus rapide.
C'est vrai qu'il fait ce choix.
Cet exemple, il est presque emblématique de ce que je veux dire. L'efficacité propre d'une fonction d'automatisation, ce n'est pas le seul critère de décision dans un processus créatif. L'architecte peut volontairement choisir une méthode plus lente si ça sert mieux son objectif esthétique, ou si ça permet de garder un caractère moins figé, plus esquisse, ce qui peut être pertinent à certaines phases du projet. Donc l'efficacité ici, ce n'est pas une valeur absolue, elle est mise en balance avec d'autres choses. Et puis, n'oublions pas la contrainte qu'il mentionne. Les lignes doivent être parfaitement fermées pour que SmartFill fonctionne. Dans le feu de l'action, quand on esquisse rapidement, s'assurer que chaque contour est parfaitement fermé, ça peut devenir une contrainte mentale et paradoxalement ralentir le processus.
Je vois ce que vous voulez dire sur cet équilibre entre automatisation et contrôle esthétique. Mais il y a un domaine où l'avantage du numérique me semble moins discutable, et la vidéo l'illustre parfaitement. C'est la capacité de modification, d'itération. L'utilisateur le dit lui-même avec enthousiasme d'ailleurs. L'une des raisons pour lesquelles le dessin numérique est incroyable, même si vous dessinez des objets qui ne sont pas aux bons endroits, vous pouvez simplement les sélectionner et les déplacer. Ce n'est pas vraiment possible avec le dessin traditionnel. Et on le voit faire, concrètement, il déplace la douche dans la vue en coupe. Cette souplesse, elle est absolument fondamentale en architecture. La conception, c'est rarement linéaire, on est d'accord. On teste, on ajuste, on revient en arrière. Pouvoir déplacer, redimensionner, copier des éléments sans avoir à tout gommer et tout refaire, c'est un gain de temps et d'énergie, mais monumental par rapport au papier. C'est là que l'efficacité du numérique et de Morpholio Trace comme outil numérique me paraît la plus évidente, la moins contestable.
Alors, sur le principe général, oui, on est d'accord. La facilité de modification, c'est l'un des arguments massus du numérique face au traditionnel. N'importe qui a connu les affres du gommage sur calque ou sur un papier un peu épais apprécie de pouvoir bouger un mur d'un simple clic. Cependant, même sur ce point-là, il faut garder une certaine mesure par rapport à ce que la vidéo nous montre spécifiquement. L'exemple qu'on voit, c'est un déplacement simple en 2D d'un groupe d'éléments, la douche, qui n'a pas une incidence énorme sur le reste du dessin. C'est utile, bien sûr, mais le processus de conception architecturale, ça implique souvent des modifications bien plus complexes, non ?
Oui, bien sûr, mais c'est un début.
Je pense à des ajustements qui doivent se répercuter sur plusieurs vues, plans, coupes, façades. À des modifications paramétriques, où si vous changez une dimension, ça en entraîne d'autres en cascade. Ou à la gestion des interactions complexes entre éléments dans un modèle 3D intégré, ce qui est le propre des logiciels de CAO BIM plus avancés en fait. Or, la vidéo ne nous montre absolument pas comment Morpholio Trace gère ce type de modifications interdépendantes et complexes. L'avantage qu'on voit est réel pour des ajustements simples, typiques d'une phase d'esquisse ou de schéma. Mais
est-ce que cette facilité, elle tient toujours quand la complexité du projet et des modifications augmente ? Est-ce que c'est un outil qui est adapté pour tout le cycle de conception et de production de documents, ou est-ce qu'il reste plutôt cantonné aux phases amont ? La comparaison avec des outils de chaos plus costauds, conçus pour gérer cette complexité paramétrique et 3D, elle reste donc entière, je pense.
Vous soulignez les limites de la démonstration, et c'est juste. Elle se concentre sur une tâche précise, on est d'accord. Néanmoins, pour synthétiser ma position, je reste convaincu que cette vidéo, elle illustre de manière assez tangible comment Morpholio Trace peut être un outil efficace et pratique pour certaines étapes ou certains types de projets architecturaux. La facilité de gestion de l'échelle, l'organisation via les calques, l'insertion rapide d'éléments et surtout, cette flexibilité pour itérer via la sélection modification. Ça en fait un allié précieux pour l'esquisse conceptuelle, peut-être le relevé sur site ou la conception de projets de rénovation à échelle limitée comme c'est le cas ici. Il répond à un besoin de fluidité, de rapidité dans ses phases initiales ou pour des tâches bien ciblées.
Et pour résumer la mienne, tout en reconnaissant l'existence et l'utilité intrinsèque des fonctionnalités que vous citez, échelle, calque, modification, oui, je maintiens que la démonstration elle-même invite à une lecture plus nuancée de l'efficacité globale de l'outil dans un flux de travail architectural complet. Les choix très nets de l'utilisateur, redessinés sur les pochoirs, éviter le smart fill pour privilégier l'esthétique manuelle, montrent bien que l'efficacité potentielle des outils d'automatisation n'est pas toujours exploitée parce qu'elle rentre en conflit avec d'autres objectifs, notamment esthétiques. Si on ajoute à ça la simplicité du cas d'étude, une pièce en 2D, géométrie simple, on comprend qu'il est difficile d'extrapoler ces observations à des projets plus vastes ou plus complexes ou à toutes les phases de la conception. L'efficacité qu'on perçoit ici pourrait ne pas être la même dans d'autres contextes. Voilà.
Donc, notre désaccord fondamental, si je comprends bien, il porte sur la portée de la preuve qu'apporte cette vidéo. Est-ce que c'est une démonstration d'une optimisation réelle, transposable, du flux de travail grâce aux fonctions de l'outil, ou est-ce que c'est plutôt une illustration des arbitrages constants que l'architecte doit faire entre les capacités techniques d'un logiciel et ses propres exigences en matière de représentation, de style et peut-être même de processus de pensée créative ?
C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs ce qui rend cette analyse intéressante au-delà de Morpholio Trace lui-même. Cette vidéo, c'est une excellente étude de cas de la manière dont les architectes négocient en fait l'intégration des outils numériques. Ils ne cherchent pas toujours l'efficacité brute maximale que la machine promet. Ils cherchent souvent un équilibre, parfois précaire, c'est vrai, entre la rapidité, la précision, le contrôle, et puis cette capacité à exprimer une intention ou une esthétique particulière, qui peut encore être très lié à l'idée du dessin à la main, même si c'est transposé sur une tablette. Le matériel source, même s'il est limité à une tâche précise, nous offre un aperçu fascinant de cette dynamique. Ça suggère que l'évaluation d'un outil comme celui-ci ne peut pas se faire juste sur ses spécifications techniques, mais doit aussi prendre en compte comment il s'insère ou pas dans les pratiques et les préférences réelles des utilisateurs.
Effectivement, considérer ces différentes facettes, c'est essentiel pour comprendre la place et l'impact réel de ces technologies dans la pratique architecturale. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire en explorant d'autres fonctionnalités ou d'autres contextes. Merci beaucoup pour cet échange, c'était très éclairant.
Merci à vous également, c'était intéressant.